Bienvenue sur les 3-8, en ce samedi 5 juillet 2008. Il est 10h et nous vous proposons d'écouter tout de suite une table ronde qui s'est déroulée dans le cadre du Festival international du documentaire, hier après-midi, dans l'auditorium du 61 La Canebière. L'intitulé de cette table ronde était « Lettre à la prison », titre de l'un des films de Marc Cialom. Tourné en 1969, puis abandonné par son réalisateur, ce film sort cette année des placards pour être dévoilé, restauré et mis en évidence par le FID. Ont participé à cette table ronde Marc Cialom, Jean-Paul Curnier, Claude Martineau et Frédéric Valabrègue. Messieurs, c'est à vous.
D'abord, excusez Sylvie Reynald qui n'a pas pu se joindre à nous cet après-midi. Et je vous propose, messieurs, même motif, même punition, même question. Comment vous avez découvert le film et le fait que nous nous retrouvions d'abord dans un festival pour le voir et ensuite pour en parler, en discuter avec nos amis, cette démarche-là, comment elle vous a été motivée?
Elle m'a été motivée par le fait que depuis un certain temps, je vais voir énormément de films au Polygone étoilé, que j'aime énormément cette association, et qu'elle m'a permis de découvrir un certain nombre de films, dont Flaky et camarades et Lettre à la prison, de Marc. Et j'ai regardé ça chez moi sur un petit moniteur de télé avant restauration. Voilà. La première chose que je me suis dite en le regardant, c'est que ce qui pourrait apparaître comme un sujet n'était pas ça. Que le sujet, c'était le sujet, que c'était pas le travailleur immigré, quoi. C'était un individu, et je voulais interroger Marc Cialom là-dessus, parce que c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Est-ce que c'est un film sur l'immigration ou le travailleur immigré? Est-ce que c'est un film sûr? Et moi, je ne crois pas du tout. Et je voudrais surtout qu'on parle avec Marc, alors je vais le lui demander.
Je ne sais pas dans quel esprit vous dites que ce n'est pas un film sur un travailleur immigré. Ce n'est pas un film sur un travailleur. C'est quand même un film sur un immigré, sur un exilé. Sur quelqu'un qui traverse, qui passe d'un lieu en un autre lieu, où les gens ne sont pas les mêmes, où il n'est plus dans une communauté qui lui est familière, où il se retrouve chez des gens qui le considèrent comme un étranger, où il en arrive à se considérer comme un étranger, et où il en arrive à se demander qui il est. Parce que, comme je vous le disais précédemment, au cours d'autres conversations, il en arrive à se demander s'il est quelqu'un. Est-ce que je suis moi? Ou est-ce que je ne suis rien du tout? Le thème de la folie, le thème de la tête, cette tête coupée qu'on trouve dans la poubelle, ce rêve d'une tête qui peu à peu s'élabore entre ses doigts, qui est une petite boule de plâtre qui devient de plus en plus grosse et qui finit par être une tête. Ce thème de celui qu'il appelle l'ancien combattant, ce vieil homme avec son bâton, dont il dit qu'il a perdu la tête, c'est toujours le thème de la tête. C'est sur la tête que la pioche, sur la tête de la jeune femme que la pioche va frapper. C'est toujours la même chose, la même métaphore. C'est est-ce que j'ai une tête ou est-ce que je n'ai plus rien du tout? Est-ce que je suis quelqu'un ou est-ce que je ne suis plus rien du tout? Donc c'est le thème de la perte d'identité, d'une perte d'identité qui n'est pas seulement culturelle, mais qui est plus bêtement et plus profondément perte d'identité personnelle. Je ne suis plus une personne. Je ne suis plus une personne. Voilà. C'est ça, je pense, le thème du film, en gros. Et le fait que le frère auquel il écrit soit un peu son double, le frère l'a précédé dans cette perte de l'identité. Et il se sent appelé par ce risque que représente son frère de perdre son identité. Tout ça, c'est un peu ce dédoublement. C'est un peu toujours ce thème de la perte. Voilà. Enfin, si j'ai...
Oui, très bien. Oui, en deux temps, disons que... Justement, une des choses qui me paraissait importante, c'est que c'est à la fin du film qu'il devient immigré, d'une certaine façon. Enfin, il devient quelque chose, arabe, c'est écrit sur le mur. Au départ, il est tunisien. Il a un frère. Ensuite, il arrive, il commence par être absolument rien pour devenir quelque chose qui est immigré, qui est quelque chose, mais qui n'est certainement plus tunisien et pas non plus français ni rien du tout. Bon, quant à moi, alors pour répondre à ta question, c'est très légèrement différent. L'origine est la même. C'est Jean-François et Gaël qui m'ont dit au tout début, voilà, on vient de se lancer dans la recherche de moyens et de fonds pour la restauration de ce film. On m'a donné une copie, je l'ai amenée chez moi, à Arles. Je l'ai regardé sur un téléviseur. Et je l'ai regardé seul. Et c'était comme un ovni. Et en même temps, je me suis dit, maintenant, d'abord, ce film est un film. Et en même temps, il est, comment dire, il est hypothéqué. Il est hypothéqué d'une certaine façon parce que son occultation va porter à le fétichiser en tant que tel. On va regarder le film occulté et peut-être pas le film. Et donc, à ce moment-là, on a eu une très longue discussion avec Jean-François au téléphone à un moment. J'étais très inspiré dans cette conversation et je disais tout ce qui me paraissait être autour de cette difficulté qui est cachée derrière la facilité de sa réception. Nouvelle difficulté, le film peut être regardé, vu, aimé, admiré dans le prétexte que, à la limite, être vu comme un vestige. Et voilà, donc c'est la raison qui m'a amené ici aussi peut-être pour en parler avec, bon, avec vous tous aussi, dans le sens que je pense que ce n'est pas lui rendre service parce qu'il va falloir que ce film soit exposé à la critique en tant que film. Voilà.
Oui, je viens enfin, répondre, c'est beaucoup dire, continuer, commenter un peu ce que vous venez de dire. Moi je suis d'accord avec vous. En même temps, je ne sais plus très bien sur quel pied danser. Je ne sais pas quel discours tenir vis-à-vis des gens qui me parlent de ce film et vis-à-vis de moi-même, d'ailleurs. Parce que ça a tellement changé. Parce que à l'époque où le film a été fait, tout le monde autour de moi me disait que ce n'est pas un film. Aujourd'hui, on me dit que c'est un film. Et je ne sais plus très bien. Et je me demande s'il n'y a pas un pont, en tout cas une relation, entre ce que le film raconte et ce dont vous venez de parler. Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de perte? Et quand vous disiez qu'il commence par un Tunisien, par être un Tunisien, qu'ensuite il n'est plus rien, et qu'ensuite il devient un Arabe, d'abord il faudrait préciser exactement ce que ça signifie. On va essayer de le faire. Est-ce que... oui, je voudrais préciser cette chose-là. Tunisien, rien, puis Arabe. Je crois qu'on en a parlé également précédemment. Dans le film, à la fin, le frère, dans sa réponse imaginaire, lui dit « Ne viens pas me voir tant que tu es innocent ». Le mot « innocent », on m'a interrogé sur le sens de ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire « innocent » qu'est-ce que tu entends, Marc Cialhomme, par « innocent » bon. Et au milieu du film, lui, Tahar, dit dans sa lettre imaginaire à son frère « J'ai peur de venir te voir, mon frère, et de connaître une chose que tu connais ». Bon, je pense qu'il y a une relation entre les deux phrases. Cette chose qu'il ne connaît pas, lui, Tahar, et que son frère connaît, cette chose qui fait que, ne la connaissant pas, il est un innocent, c'est probablement, à mon sens, il y a deux réponses, je crois, il y a peut-être deux interprétations. La première serait, ce que je ne connais pas, ce que toi tu connais, mon frère, c'est cette culpabilité, cette fausse culpabilité qui nous est flanquée à la gueule. Et moi, je ne l'ai pas encore, cette culpabilité. Lui, Tahar, qui arrive à Marseille, au début, est complètement désorienté, ne sait pas, etc. Le frère, lui, sait qu'il est, qu'on lui flanque cette culpabilité à la gueule. Bon, j'étais le coupable idéal, lui dit-il à la fin. Toi, Tahar, tu vas le savoir bientôt. Cette culpabilité-là, on nous la flanque. Et tu vas être, à ton tour, ce coupable que je sens être, même si je ne suis pas coupable, même si je n'ai pas tué la jeune femme en question, parce que c'est un happy end, bon, d'accord. Bon, même si je n'ai pas tué la jeune femme en question, mon patron m'a dit, avec vous autres, on ne sait jamais. Et je l'ai regardé et j'ai pensé, ils n'ont pas tort. Il n'a pas tort. Bon. Donc cette culpabilité-là, je l'ai intériorisée. Je l'ai intériorisée. Toi aussi, Tahar, tu vas l'intérioriser au fur et à mesure que tu vas rester en France. Bon. Ça, ce serait sans doute la première interprétation du rapport entre les deux phrases que je viens d'indiquer. Et la seconde, qui découle de la première, serait ce que moi... je sais, et que toi, Tahar, tu ne sais pas encore, et que tu vas savoir, c'est que la raison profonde pour laquelle on devient un autre, quand on est un Tunisien arrivant en France, vivant en France, dans ce milieu différent, un peu comme les Martiens débarquent, hein, dit un gamin, bon, comme un Martien, la raison profonde pour laquelle on devient un autre, c'est aussi quelque chose à... essayer de fouiller d'un point de vue politique et pas seulement de ce point de vue qui est le tien, Tahar, consistant à rêver ce que tu vis, à être dans l'onirique, dans le psychologique, dans le poétique. La dimension politique, toi, Tahar, tu l'ignores. Et moi, dit le frère parisien, le frère qui est à Paris, moi, cette dimension politique, je l'ai comprise, je la sens. Je sais que c'est pour des raisons politiques qu'on nous flanque cette culpabilité à la gueule. Voilà. Donc c'est là, moi, que je verrai les trois étapes dont vous parliez. D'abord un Tunisien, hein, ensuite rien, ensuite, vous disiez un Arabe, moi je dirais un immigré ayant pris conscience de cette culpabilité qu'on veut me mettre sur la figure et de la dimension politique que cela prend et ayant sans doute à assumer une attitude politique face à ce qui m'arrive, ce qui me tombe sur la gueule. Bon. Toi, Tahar, tu ne le sais pas encore. Bon, là, j'ai un peu dévié, je ne sais pas. Bon.
Mais cette culpabilité, elle devient encore beaucoup plus vaste lorsqu'il s'agit aussi de quelque chose qui appartient au rapport entre l'homme et la femme.
Absolument.
C'est là où ça devient beaucoup
Absolument.
Plus large.
Oui, si tu veux. Bien sûr.
C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, oui. Travailleur immigré, oui, immigré, oui, travailleur, immigré. Il jette sa pioche. C'est quand même la chose.
Oui, le gars qui jette sa pioche.
Qui fracasse la tête et c'est la. Et Tahar l'annonce qui jette sa pioche. Cette culpabilité, elle est constamment contrebalancée par un désir dans le film qui est sous-jacent et qui est aussi oui. fort. Moi, oui. ce qui m'a beaucoup captivé, c'est justement ce va-et-vient incessant entre un mouvement de culpabilité qui est tout à fait nourri par le désir. Et bon, tout ça, ça tourne. Hein, ça n'arrête pas de tourner.
Je suis entièrement
d'accord.
C'est
aussi présent. Il y a un mouvement vital qui est voilà. aussi fort. Et voilà, j'ai perdu la question comme d'habitude.
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire.
L'homme et la femme, voilà, cette histoire de rapport non. d'homme et de femme.
Le rapport d'homme et de femme voilà. et le désir. Le thème du désir me paraît être un thème capital. Et aussi, c'est le thème qui permet de continuer à vivre. Parce que sinon, il n'y a plus qu'à se flinguer. Quoi. Bon, le désir, ça veut dire que je continue. Je continue parce que je suis un être désirant. Je vais. Non, c'est très juste, cette chose. Il faut pas occulter le thème du désir, bien sûr.
Ce qui me... À revoir le film, je l'ai découvert en version restaurée, moi aussi, tout à l'heure. Je pense qu'il faut remercier le travail qui a été fait, parce que quand on a vu en VHS, dans les premiers temps, bon, d'abord, on s'est confronté à ça, mais c'est devenu un très beau travail dont il faut féliciter la Cinémathèque de Bologne et puis Gaël qui a travaillé sur le son également. Mais ce qui me revient, quand tu parles de l'occultation du film à accepter tel qu'il est 38 ans après, il y a une chose qui me sidère avec L'être à la prison, tout comme d'ailleurs à l'époque j'ai été un peu sidéré avec le film de Carpita, Le rendez-vous des quais. Et le travail que j'ai pu faire autour du film de Paul, c'était justement de prendre le film intrinsèquement en tant que film et non plus assujetti à sa malédiction ou à sa censure et à son occultation. Il n'empêche qu'en voyant en redécouvrant le film cet après-midi, moi, ce qui me frappe, c'est ces signes, je dirais peut-être subliminaux, alors peut-être que j'ésotérise beaucoup sur la chose, qui sont dans le film, et qui marque peut-être ces 38 ans d'occultation. Le symbole du bateau qui s'appelle l'avenir. L'ultime réplique, ne viens pas me voir tant que tu es innocent. Et cette notion qu'on pointait à l'instant, du désir qui circule, qui est aussi un désir de cinéma, me semble-t-il. Mais c'est à l'époque où vous tournez le film... Il est hors de question que vous forgiez à cette époque-là une carrière de non-cinéaste ou de cinéaste maudit, au témoin d'un doute.
Il en était hors de question. Oui, c'était hors de question. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte ? Que j'étais ensuite extrêmement triste que la chose devienne impossible. C'est pas la peine, c'est une anecdote, ça. De toute façon, comme on l'a dit avec une copain, mon cas, c'est celui d'un grand nombre d'autres hein, qui ont vécu la même chose, qui vivent la même chose aujourd'hui. Moi-même, je continue à vivre la même chose aujourd'hui, puisque je le disais hier, je suis en train de faire un long métrage en ce moment, je me trouve devant les mêmes difficultés qu'il y a 38 ans. On me disait il y a 38 ans, quand je proposais mon scénario, le scénario d'être à la prison, c'est pas un film, c'est pas du cinéma, c'est nul. Et on me dit la même chose pour le film que j'essaye de faire aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle le film est arrêté. Voilà, j'en suis à peu près au même point, et je pense que je suis pas le seul, bien sûr.
Oui, c'est à propos de... Est-ce que c'est du cinéma ou pas du cinéma ? C'est-à-dire, en gros, globalement, la raison pour laquelle, finalement, il n'y a pas eu de producteur, il n'y a pas eu d'aide, il n'y a pas eu de film, à cette époque-là, enfin, de mise en circulation du film. Ça fait un peu deux choses pour moi, parce que je me suis dit, au fond, on a ce film, un film, il est toujours l'héritier de ses conditions de production, y compris dans les cadrages. J'ai eu l'impression, c'est qu'une impression, alors franchement, ça tient sur rien, mais j'ai eu l'impression parfois que ce film était exagérément libre par rapport à un film qui aurait suivi, un scénario qui n'aurait peut-être pas été dans cette colère, qui n'aurait peut-être pas été dans cette espèce de jeter les dés une dernière fois et se dire « je le fais ». Par exemple, il y a des plans que j'ai trouvés absolument incroyables, qui sont pris à la hauteur du chien, par exemple. C'est-à-dire très bas, 80 cm, c'est extrêmement rare. Des plans quand il est sur le banc, par exemple, quand le clochard arrive. Il y a des choses extrêmement libres, c'est-à-dire, par exemple, il y a 3-4 cadrages différents montés qui vont jusqu'à leur fin. Des enfants rentrent dans le champ, par exemple, alors qu'ils devraient être cachés. Des choses comme ça qui lui donnent une sorte d'ampleur ou de respiration qui n'est pas la respiration ordinaire, je peux dire, ou en tout cas à laquelle on peut être habitué. Bon, c'est peut-être un détail. En tout cas, j'ai eu cette intuition-là en le regardant, en me disant, il y a là-dedans aussi un souffle de colère et de liberté en même temps, enfin quelque chose de contrebalancé, quoi, entre les deux. Et puis, évidemment, il y a la question, ça m'est venu un peu comme une réponse, j'ai dit, c'est étrange, ce film ne donne pas matière à jugement. Alors en plus, il s'agit justement du frère et de... Il ne donne pas matière à jugement. Alors peut-être, j'ai cru comprendre qu'on lui reprochait de ne pas être politique, mais contrairement à ce qu'on pouvait attendre d'un film politique, ce film ne donne matière à aucun jugement de type moral. Et c'est en ça qu'il est beaucoup plus pour moi un film poétique qu'un film politique, au sens où l'entendaient évidemment les producteurs que vous avez rencontrés à l'époque. Qui ne sont peut-être pas les producteurs que vous auriez rencontrés aujourd'hui, ou les mêmes, je ne sais pas. Enfin, comment le politique pense être qu'il est politique et le cinéma penserait qu'il est le cinéma. Voilà. Et entre les deux, il y a des choses qui ne sont pas le politique et pas le cinéma, mais qui sont de la poésie, par exemple, enfin, je dirais, et qui se sert du cinéma. Parce que sinon, effectivement, on est dans une autre histoire. S'il y a matière à jugement, si le film est un film qui fait l'état de la question de l'immigration, il faut le construire tout à fait autrement et pas parler de ça. Et évidemment, il ne faut pas en plus des coups de pioche dans la tête. Enfin, ces choses-là sont terrifiantes. Ça dessert la cause de l'immigré. C'est bien connu. Donc, du coup, effectivement, le film est beaucoup plus libre, beaucoup plus ample. Moi, je pense qu'il pouvait traverser beaucoup plus facilement les époques. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on peut le voir aujourd'hui, comme ça.
Oui, pour compléter le propos... Pour compléter sur ce propos, moi j'ai trouvé le film étonnamment réaliste et étonnamment surréaliste en même temps. C'est-à-dire à la fois dans une description d'une époque, d'une réalité sociologique, politique, tout ce qu'on veut, bien au-delà, bien sûr, par sa forme, par sa mise en scène, par ses images, par ses émotions qui sont produites. Et du coup, c'est vrai qu'on n'est pas dans le cinéma au sens de la narration telle qu'elle est... d'habitude, déclinée, proposée, produite. Voilà. Donc effectivement, je trouve que le film est particulièrement moderne aujourd'hui parce qu'il est par moments presque un clip au sens d'une impression visuelle et d'une impression d'un sentiment fort, instinctif, spontané. Il dépasse effectivement, je suis assez d'accord, la question de l'émigré. C'est la condition humaine lorsqu'elle est isolée, lorsque le personnage s'isole. Voilà, il y a cette réalité-là. Et en même temps, je trouve qu'il est étonnamment, je dirais... moi, j'ai pensé à du Buñuel par moment. J'ai pensé à du Dali. J'ai pensé à ces espèces de mise en scène un peu allégoriques. J'ai vu des choses même baroques, d'une certaine façon. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans l'œuvre d'art. Voilà. Et souvent, il arrive souvent que l'œuvre d'art ne rencontre pas forcément son époque, le moment sur lequel elle surgit. Est-ce que ce n'est pas de ça dont on est en train de parler, finalement ?
Juste une petite chose, vous parliez de petites bribes d'images, d'imagination. Moi, je dirais aussi petites bribes narratives. Je pense, par exemple, à certains poèmes d'Apollinaire. Dans le Voyageur d'Apollinaire, te souviens-tu du jour où une abeille tomba dans le feu ? T'en souviens à la fin de l'été. Deux matelots qui ne s'étaient jamais parlé. Voilà. Ce sont des commencements ou des petits bouts d'histoire, mais l'histoire ne nous est pas racontée. Et il n'y en aura pas plus. Voilà. Donc, les bribes narratives, et d'une façon générale, parce que puisqu'on parle de bribes, bribes d'images, bribes narratives, d'une façon générale, la discontinuité. La discontinuité, c'est une chose qui me touche beaucoup.
Je voudrais juste en profiter pour dire que tu écris, que tu es aussi écrivain. La présence du texte dans ce, dans ce film est manifeste. Il y a un texte. Et est-ce que tu peux parler de... S'il n'y a pas de scénario, il y a un texte. Est-ce que tu peux parler de son élaboration ?
L'élaboration du texte. Bon, moi, je suis né à Tunis et je sais comment il parle mal le français. C'est très savoureux. Et donc, j'ai capté les fautes de français avec plaisir. Comment j'ai élaboré le texte ? Ben, moi, je crois que, en fait, le texte a été le canevas. Hein. Je suis parti du texte. Je veux dire que, bon, j'ai eu dans la tête l'histoire. Ce matin, on m'a demandé quelle était la genèse de ce film. Bon, je me suis dit qu'il fallait essayer de répondre, de me souvenir, parce qu'on ne se souvient pas toujours très, très clairement. Mais enfin, bon, j'ai essayé. Je me suis dit, oui, j'ai dit que c'était d'abord un thème. Ce thème de la perte d'identité dont on parlait. Du thème de la perte d'identité au thème du dédoublement avec les deux frères, il y avait un lien. Je pense que je suis passé du thème de la perte d'identité au thème de l'autre qui est moi, moi qui suis l'autre, le frère. Bon. Et de là, il me semble que l'histoire a commencé à naître. Mais dès que l'histoire a commencé à naître, ça a été le monologue du gars hein, que j'ai rédigé. Hein. Les images sont venues après. Hein. C'est d'abord le monologue du gars, hein, c'est sûr.
J'ai été extrêmement ému par votre film. C'est vrai que c'est difficile en sortant d'en parler, pour commencer, parce que ça creuse un silence énorme, je trouve. Alors, cela étant, il y a une chose qui m'a terriblement touchée, et je crois que c'est peut-être en lien avec ce désir culpabilité dont vous parliez, c'est toute la blancheur qui intervient en permanence, aussi bien dans la chemise, enfin, les prénoms, etc. Et c'est vrai que... Est-ce que c'est lié, là, à ce thème de l'innocence
Je ne sais pas si c'est lié au thème de l'innocence, mais c'est sûrement lié au thème de la perte, parce que le blanc, il me semble que c'est l'absence.
Oui, oui.
C'est l'absence, c'est la perte. Oui. Moi, je le sens comme ça.
Et bon, il y a une deuxième chose là, qui m'est passée par la tête, en me rappelant quand même cette période de 68, et puis juste, c'est l'année suivante hein, que vous avez fait le film, où Dieu sait que ça discutait et ça produisait dans le rapport art et politique, si le fait que justement vous ayez été ignoré d'une certaine façon, c'est pas lié au fait que ça dérangeait terriblement pour tous les révolutionnaires en art ou en politique de ces années-là, oui. que cette parole qui était la vôtre et qui était la parole de quelqu'un qui était justement sur les deux rives. Avec tout le colonialisme qu'on n'a pas encore digéré.
Moi, je n'en suis pas très sûr de ça. Je pense que d'une part, les cinéastes de gauche, entre guillemets, qui étaient généralement à cette époque-là des cinéastes militants, m'en ont voulu de ne pas avoir fait un film militant, d'avoir fait un film où l'onirisme avait cette importance et où l'argumentaire politique restait inexprimé. Bon, ça n'allait pas. Et de l'autre côté, ceux qui auraient souhaité que je fasse un film, puisqu'il s'agissait d'un Nord-Africain venant en France, qui auraient voulu que je fasse un film un peu orientalisant, un peu pittoresque, etc., ont été déçus également. Donc ça s'inscrivait dans aucun créneau. Ça correspondait à rien. Et c'est tombé. Voilà.
En revanche, si je peux me permettre, on se souvient évidemment des purs et durs, on va dire, du militantisme cinématographique de cette époque-là. Mais ces années-là, c'est-à-dire 69 très précisément, et jusqu'en, on va dire, 72, donc au moment où le film militant dialectique, et non pas poétique, est prégnant, se développe également en France toute une partie du cinéma qu'on a un petit peu occulté. Et il y a deux pôles qui me semblent intéressants, et c'est pour ça que le film est très bien daté pour moi dans son époque, dans cette époque-là historique du cinéma français. C'est d'une part... Je dirais les films poèmes de Robiol, de Garel, dont on peut voir à l'heure actuelle L'île de la Vierge ou La cicatrice intérieure, qui date de 67-68, ici au festival. Garel, Robiol, le Dominique Delouche, avant qu'il ne fasse des films de chorégraphie, je pense à La Naissance, par exemple. Tous ces films dans cette mouvance, avec des acteurs comme Pierre Clémenti, par exemple, sont là pour... le côté, je dirais, poétique ou surréaliste, comme il a été dit à l'instant. Et d'autre part, Et ça aussi, c'est une partie du cinéma que l'on a un petit peu oubliée parce que les purs et durs de la cinéphilie intempestive et militante nous l'ont peut-être un peu trop caché. C'est le cinéma né de l'immigration. Parce qu'à l'époque, Désiré Carré, l'Africain qui vit à Paris, tourne Concerto pour un exil. Ali Halem, qui est Algérien, tourne Mektoub. Medondo, pour citer le plus connu, celui qui se fera un nom plus tard. Mais donc il y a un cinéma de l'immigration, il y a un cinéma de la poésie. On va trouver ça très rapidement à l'étranger, me semble-t-il, avec le Brésil, le cinéma novo, dans lequel on a Brecht, la samba, pour aller vite. Et donc, pour moi, L'être à la prison, c'est vraiment le film de cette époque-là. Et c'est vrai que le politique ayant pris le pas, et le pas très marqué, on est passé à côté d'un tas de films, et dont celui-ci.
Oui, ben ça nous amène à quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir dès la première fois où j'ai vu le film, qui était ça. C'est par exemple, bon, alors effectivement, le créneau politique, on comprend très bien, c'est un préjugement avec des conditions pour juger à peu près en oui ou en non, en blanc ou en noir, etc. Bon. Et ça, c'était les conditions du cinéma de 70, et c'était comme ça. Bon, et c'était comme ça chez Sloan, par exemple, puisque moi-même, j'ai eu affaire à Sloan à cette époque-là, en 71, et j'ai eu affaire à la même chose, à savoir où sont les conditions d'un jugement politique là-dedans, dans ce que tu proposes. Ben non, j'étais tout jeune, il n'y en a pas, ben, on repassera. Le problème, il est qu'aujourd'hui, le politique a été remplacé par le compassionnel. Et ça veut dire que le politique n'est pas disparu comme ça. Il a été remplacé par, je ne sais pas si c'est pire, mais au moins également pire. Et dans le film, il y a l'antidote à ça. C'est ça qui m'a complètement sidéré. C'est-à-dire que non seulement ce film, effectivement, se tient en retrait d'une sorte de vocabulaire admis sur l'immigration, qui serait le vocabulaire de... les luttes du tiers-monde, la reconstitution à l'intérieur des citadelles du capital, etc. Mais il y a cette femme, cette militante, qui lui explique comment, effectivement, les Arabes sont maltraités et que toujours ils sont culpabilisés. Et il en est indifférent, parce qu'il n'est pas encore immigré, justement. Il n'est pas encore dans l'étiquette immigré. Quand je dis étiquette arabe, c'est l'arabe qui est écrit sur le mur, c'est-à-dire avec tout ce que ça va obliger. Et alors là, la mise en abîme du film est extraordinaire, parce que c'est maintenant que ça se joue. La question de ne pas être une victime. Être, mais ne pas être forcément... un objet de compassion, échapper y compris à ça. Être un objet du politique, c'était déjà pénible. Être un objet de compassion, c'est, je veux dire, dans les jours que nous traversons, là, on en sait quelque chose, quoi, de la question du sens et de la compassion. Voilà ce que je voulais dire. Mais ça, vraiment, ça m'a énormément frappé, parce que je me suis dit, c'est incroyable, c'est ça. C'est-à-dire, être immigré, c'est à une époque, c'est être un objet politique, et aujourd'hui, c'est être un objet de compassion. Mais ça n'est toujours pas être. C'est toujours être cette petite part, quoi. C'est toujours être presque rien.
Sur la reprise en main du titre, par rapport à un titre initial qui était Le Chien, parce qu'il y avait une référence, tout à l'heure on parlait de Buñuel, il y a quelque chose de ça aussi, et par rapport à ce devenir, à ce non-être finalement, l'animal ou l'animalité, elle était aussi prégnante, peut-être davantage avec un titre comme Le Chien que L'être à la prison.
Le chien, j'y ai renoncé, justement. C'est ce que, du côté compassionnel, pauvre chien. Non, c'est pour ça que j'y ai renoncé. Je n'ai pas voulu. C'est pour ça que j'ai renoncé à ce titre. Oui. D'ailleurs, le chien, il le flanque par la portière.
Je voulais juste dire un peu naïvement que moi, la première fois que j'ai vu le film, la parole m'a paru principalement politique, dans le sens où ce qui me touchait particulièrement, c'était que pour une fois, on laissait penser quelqu'un d'immigré, d'étranger. C'était justement la possibilité d'entendre sa pensée, chose que je ne sens pas en général.
Je suis d'accord avec toi. Vous parliez d'objets compassionnels, d'objets politiques. Sujet, pas objet. Hein ? Il est sujet.
Non, mais il y avait... on est en train de faire l'inventaire des...
J'y pensais tout de suite que dans ce phénomène d'empathie, c'est-à-dire arriver à distribuer dans son propre corps à travers la marche et la solitude tous les rôles et toutes les scènes, j'ai ressenti la présence et la violence de quelqu'un comme Fanon. C'est une amie qui m'a rappelé ça dernièrement. Et France Fanon, je l'ai senti très fort. Je ne sais pas si tu l'as lu. parce qu'il y a la même colère explosive sous cette revendication, cette revendication de singularité qui est permanente. C'est-à-dire on se bat contre l'idée d'eux, quoi, sans arrêt. Et on s'y bat avec violence. Fanon a écrit « Psychopathologie d'un tueur ». C'est quelqu'un qui sentait le crime, et le crime, il est partout dans le film. Et c'est ça qui le rend violent. Parce que moi, quand je disais que c'était pas un film sur un travailleur immigré, c'était peut-être pour commencer le débat, mais la violence, elle est là, elle est permanente, et le politique, il est complètement tissé à cette violence et à ces matières. Le politique, c'est pas le message, c'est pas le divulguer, quoi. C'est pas l'appartenance. Et dans la manière dont ce personnage prend la parole et dont il se situe, parce qu'il est facilement... il est très réactif, ce personnage. Hein. Il peut virer de la douceur à la colère très, très vite, en permanence, dans le film. Il y avait cette parole-là qui est occultée aussi aujourd'hui. Celle de gens comme Fanon n'existe plus.
Je pense que c'est une chose tout à fait importante, y compris si on continue cette conversation sur le pourquoi du rejet politique. C'est parce qu'aussi toute la pensée politique s'est érigée contre cette réalité-là, à la fois sexuelle, criminelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que devenait Jeunet à l'époque ? Quel accueil du film de Jeunet, par exemple, c'est hallucinant. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que tout ça est vicieux ? Tout ce qui tourne autour du sexe, c'est une réalité qu'il faut expulser du politique, ce qui tourne autour du crime comme pulsion et comme élément vital aussi, puisque le crime est aussi un effet de vitalité, c'est pas un effet de perte de vitalité. Toutes ces choses-là sont profondément condamnées, sinon on dit, ah mais alors le visage de l'immigré, c'est le tueur. Et donc effectivement, ça rentre exactement dans cet endroit-là, pratiquement d'exorcisation de tous les interdits politiques, à savoir qu'il ne faut pas parler de la présence, de la possibilité du crime lorsqu'on est dans une situation de perte d'identité. Sinon, on fait l'apologie d'eux, etc., etc. Et donc c'est effectivement perdu, quoi. Mais je crois que c'est effectivement tout un noyau qui tourne autour de ça et qui fait d'abord l'actualité du film, qui pas que son actualité, qui fait sa possibilité encore longtemps, je veux dire, d'explorer toutes ces zones obscures. Quoi, parce que c'est pareil dans le compassionnel aussi. Hein, là aussi, il faut virer le crime, la sexualité, il faut virer tout ça.
Oui, vous parliez de Jeunet et vous parliez tout à l'heure de liberté. Jeunet faisait partie des livres que nous lisions après 68, évidemment, et même avant. Et Marcuse était un auteur que nous lisions en 68. Hein, en 68, c'était Héros et civilisation. Bon, Héros et civilisation, c'était Freud plus Marx. Hein. Moi, je me rappelle avoir eu... J'ai été, avant, inscrit au Parti communiste. Et je me suis suffisamment engueulé avec des membres du parti qui... intégrer un certain Marx et qui rejetait Freud, c'est-à-dire qui était des curés, quoi. Voilà. Donc il s'agissait que le désir dont tu parlais tout à l'heure soit présent aussi. Hein. Il s'agissait que toutes ces langues de bois sautent et qu'on en arrive à une certaine vraie liberté de parole, d'écriture. C'est de ça qu'il s'agissait dans ce film.
Moi, je voudrais vous poser une question à propos de la façon dont vous avez réalisé le film, à la fois au niveau du lieu, c'est-à-dire vous étiez à Marseille, à Paris, où est-ce qu'il s'est fait, et le rapport avec ce lieu, les gens que vous fréquentiez dans le milieu du cinéma, et l'écriture, le choix, par exemple, de ne pas faire parler l'acteur, les acteurs, enfin, surtout l'acteur principal, Tahar, mais de lui faire adopter ce décalage, enfin, de faire ce son qui n'est pas le sien, qui arrive toujours comme une pensée. On ne voit jamais parler directement. Donc ça, c'est... Oui, mais c'est un choix d'écriture, mais c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup. Je revois les films Zanzibar, justement, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'écriture de cette époque-là. Soit un ton très théâtral, même si les gens parlent, ils parlent comme s'ils ne parlaient pas normalement. Ils ne parlent pas comme au cinéma, ils parlent comme s'ils étaient un peu ailleurs, comme dans leur pensée. Soit il y a une voix off qui raconte ce qu'ils sont en train de vivre ou sur quoi ils s'interrogent.
Hein. C'est tout bête, c'est peut-être un choix en un second temps, mais en un premier temps, c'était tout simplement une nécessité. Je veux dire qu'on m'a prêté une caméra qui n'enregistrait pas le son, je n'avais aucun moyen d'enregistrer le son, donc on a tout tourné en muet, et ensuite on a enregistré du son, et comme j'étais fauché et que j'avais très très peu de moyens matériels, ce son a été enregistré avec un petit magnétophone d'amateur, dans une chambre de mon appartement, sans avoir l'image sous les yeux. Ce qui fait que rien n'est jamais synchrone. Le monologue, c'est une idée qui m'est venue en fonction de cette impossibilité. Je pense que c'est pas plus mal. Hein. Quand on peut pas faire ceci, qu'on peut pas faire cela, c'est là qu'on peut avancer peut-être. Quand on peut tout faire, on fait plus rien souvent. Hein. Donc, dans un sens, ça me gênait pas trop d'avoir tant d'impossibilités. Je me disais, on va y arriver, en choisissant d'autres chemins. Mais enfin, ça n'est un choix artistique qu'en un second temps. Hein. Oui, oui, quant aux lieux, vous parliez des lieux. Bon, on a tourné pendant un mois à Marseille. Marseille, c'était fondamental pour moi, parce que Marseille, c'est vraiment la plaque tournante, c'est le pivot, c'est le lieu entre les deux mondes. Hein. À Marseille, on ne sait pas si on est en Afrique du Nord ou en France, on n'en sait rien. Bon, c'est les deux. Bon. Il fallait que ce soit Marseille. Donc on a tourné un mois à Marseille, on a été tourné des prolongements de ce qui avait été tourné à Marseille à Tunis, et on en a tourné d'autres à Paris. Et donc Paris, c'était le futur, non imaginé, mais plutôt inimaginable. C'est pourquoi à Paris, on a surtout tourné dans des lieux du genre immeubles en démolition, des lieux vagues, comme ça, des lieux surexposés volontairement, voilà, une espèce de confusion. Et Tunis, c'était le passé heureux, paradisiaque, quelque chose un peu paradisiaque. Essentiellement, le film a été tourné à Marseille, hein, essentiellement à Marseille.
Et le montage,
c'est-à-dire ? Bah, j'étais à Paris. Moi, j'habitais Paris à l'époque. J'habitais à Paris. Je suis venu à Marseille avec 3 autres personnes, nous étions 4. L'équipe se composait de 4 personnes, pas plus. Hein. Donc, il y avait moi, il y avait Tahar qui me donnait un coup de main, pas seulement comédien, mais il me donnait un coup de main pour toutes sortes de choses. Il y avait Marie-Christine Lefort, qui est la mère de Chloé, qui a joué un peu dans le film et qui me donnait également un coup de main. Et il y avait une autre copine qui était Marie-Christine Rabdon. Il n'y avait pas plus que ça.
Oui, je voudrais revenir sur ce qui est dit dans l'article, là, sur la réaction de... Enfin, la réaction en fait de Chris Marker, pardon, oui. sur le visionnage du film. Quand on voit la forme d'écriture, le côté avant-gardiste, Chris Marker aussi, enfin, il en était. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour qu'il n'y ait pas compréhension ? Et puis derrière cette question, finalement, le film, quand il a été fini, comment il a été lancé finalement ? Comment il a ?
Il n'a pas été lancé du tout. Voilà. Il est mort de sa belle mort, il est ressuscité bien plus tard, mais il est mort à ce moment-là, le film. Marker, j'ai la plus grande admiration pour lui, je ne lui en veux pas d'avoir pas voulu me dire ce qu'il pensait du film, je lui ai montré le film, il m'avait prêté la caméra. Bon, on était plus ou moins copains, il m'a prêté la caméra, je lui ai montré le film après l'avoir monté, je lui ai dit qu'est-ce que tu en penses, il ne m'a pas répondu. Bon, je ne lui en veux pas du tout, bon, il n'a pas répondu. Des gens autour de lui m'ont dit pas politique. Et ça voulait dire, c'est pas un film militant, c'est pas un film engagé, donc ce que je disais tout à l'heure, nombrilisme petit bourgeois. Quoi. Je crois que c'est ça, sans doute.
Je pense que c'est tout le film est bâti comme ça et irrecevable de la part de Snow ou d'autres groupes de l'époque, parce qu'il y a prise de parole, mais il n'y a pas prise de conscience. Il y a plutôt prise d'inconscience au sens freudien du terme. Et ça, c'est rédhibitoire à l'époque dans le cénacle en question. Et c'est vraiment ça qui traverse le film. Comme Marc le disait tout à l'heure, à la Genèse, il y a quand même la lettre, il y a quand même l'écrit. Et tout le film navigue autour de ça et de cette voix intérieure. Et cette voix intérieure, oui, elle est complètement occultée à l'époque. C'est pour ça que c'est une découverte.
À ces hypothèses, je voudrais peut-être en glisser une autre, mais avec prudence, parce que hein, si on voit comment Chris Marker, qui est à l'origine de beaucoup de gestes de ce genre, hein, à l'époque, qui pour moi est un des rôles importants que Chris Marker joue, qui est d'initier des films qui lui échappent par ailleurs, dans beaucoup d'endroits. Il est à l'origine des films des groupes Medvedkin, et comment il procède à ce moment-là ? Il met à disposition des ouvriers de la Rodia, et il leur met à disposition des techniciens pour les former. Alors, on voit que dans le geste de Marc, il y a quelque chose de plus. Il prend tout et il se forme à la va comme je te pousse. Il tourne... Dans Lettre à mon ami Paul Seb, on voit bien que les ingénieurs du son que sont des gens d'un immense professionnalisme. Ceux qui forment les ouvriers de Rodia Sota sont des gens d'un énorme professionnalisme. Et il n'y a personne pour former Marc.
Non, non.
Il part non, avec...
Moi, je n'étais pas un cinéaste. Hein. Du moins, j'étais un amateur.
Voilà. Et donc ce côté-là, à mon avis, n'est pas négligeable.
Il y a quelque chose qui me trotte dans la tête. Hein. C'est quand tu dis que tu as écrit, ça me paraît évident que cette voix intérieure, elle est impérieuse. C'est-à-dire que tu as une rage qui fera que quoi qu'il arrive dans ta vie, cette voix intérieure, elle doit sortir. Et le pourquoi est immédiat. C'est-à-dire c'est une relation immédiate à ce que tu vis dans la société, dans ta vie et dans ta relation à la société à ce moment-là. Et que ça n'aura plus lieu après. Même si pour nous, aujourd'hui, enfin pour nous pour aujourd'hui et pour toi aujourd'hui, du coup, ça reste éternel justement parce que c'est complètement, 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 à cet instant-là, il faut que je dise ça, absolument, dans la profondeur totale. Et moi, je vois beaucoup de cette rage dans quelque chose qui est très bête, c'est que le chien, c'est la rage. Et cette rage qui est jetée par la fenêtre avec rage, c'est soi-même. C'est la rage de soi-même, quoi. Et bon, voilà, moi, c'est pour dire aussi que c'est pour ça que, moi et Do et Film Flamme, on a réagi si fort à ce geste-là, parce que par contre, aujourd'hui, on est conforté, nous, par ton geste, dans le nôtre, qui reste toujours un geste, plus ou moins reconnu comme un geste de cinéma. C'est-à-dire que quand on parle aujourd'hui de ton geste comme d'une poétique, d'abord, je crois que c'est à peu près, disons que l'espace de la poésie nous accepte beaucoup plus que l'espace du cinéma. Et dans la poésie, notamment, enfin moi, ce que je ressens beaucoup de la poésie, c'est la rage, la possibilité de rage, de désir, d'espaces qui sont dans le cinéma, des espaces extrêmement raisonnés, extrêmement, même plus que raisonnés, ligotés.
Bon, j'ai vraiment écouté ce que tu as dit, je suis très sensible à ce que tu dis. Je voudrais ajouter peut-être quelque chose, compléter un petit peu par ceci. C'est qu'il y avait pour moi une empathie absolue, évidente, entre ce personnage d'un Tunisien musulman qui parle et mon propre monologue intérieur. Je ne suis pas musulman, je suis un juif de Tunisie, juif italien né en Tunisie. Je n'ai pas vécu le même type d'exil, je ne prétends pas avoir vécu un exil aussi terrible que ceux que vivent des immigrés musulmans, c'est complètement différent, mais j'ai vécu aussi un exil. Et j'avais des amis tunisiens musulmans, nous étions très proches, ils entendaient ce que je leur disais, j'entendais ce qu'ils me disaient, nous vivions des choses ensemble, et il me semble que quand je fais parler d'art, mutatis mutandis, c'est un peu moi aussi, hein, c'est sûr. Oui.
Vous l'aviez conçu au départ, vous l'avez travaillé avec le comédien.
Répartition des rôles, c'est-à-dire
cet alter ego.
Ah, si je lui ai dit qu'il était moi, si je lui ai dit qu'il était moi, je crois que c'était évident. Il y avait des choses qui n'étaient même pas la peine de dire. C'était évident, surtout à cette époque-là. Parce qu'aujourd'hui, avec le poil de la bête qui a compris les religions, de part et d'autre, les communautés se sont mises face à face et se regardent un peu comme chien et chat. Bon, à cette époque-là, il y avait véritablement une osmose. Hein. J'ai vécu, quand j'avais 20 ans ou 25 ans à Tunis, très copain avec les musulmans, on se foutait complètement de ces histoires de différences d'appartenance, de communauté. Aucune importance, tout ça. On était marxistes, on lisait France Fanon, justement. Donc, c'était évident, c'est même pas la peine de dire. C'est évident que ce qu'il ressentait, je le ressentais, ce que je sentais, il le ressentait. C'est pour ça que lorsqu'on m'a dit, lorsque des Parisiens m'ont dit, comment est-ce que tu prétends savoir quels sont les rêves profonds d'un Tunisien musulman ? J'ai dit, mais je le sais, bien sûr que je le sais. Je prétends rien du tout, c'est évident.
Oui, mais ça me ramène à cette histoire qui est... Bon, on a parlé tout à l'heure, quelqu'un a parlé de Buñuel... Mais je crois que ça tient à cette scène qui est une scène qui marque profondément, qui est évidemment le fait de jeter le chien par la fenêtre, qui n'est pas une scène de gratuité, c'est la scène où la part chien de soi est virée par la fenêtre pour devenir immigré. C'est-à-dire qu'il va cesser définitivement d'être ce qu'il porte avec lui Et avec le chien, je crois que c'est à ce moment-là qu'il devient un immigré. Oui, qui est dans la valise d'immigrés. Enfin, tout est emboîté, si on peut dire. Et cette scène est très forte parce que normalement, c'est une scène d'une immense tristesse puisqu'on se débarrasse de quelque chose de soi pour devenir rien encore. Et donc, c'est quelque chose qui, je pense, avec la simplicité du geste, le chien qui vomit, les gens qui disent « non mais quoi ?» Enfin bon, c'est toujours l'arabe qui vomit, enfin, d'une certaine façon, qui se tient mal, ou qui est sale, ou qui sent mauvais. Donc, il jette tout ça qui est sale, qui sent mauvais, qui vomit par la fenêtre, et il va rester pas grand-chose.
Il va cesser d'être innocent.
Et voilà, il va cesser donc d'être innocent. Et du coup, il y a quelque chose là-dedans qui est, quand je parlais d'effet poétique, c'est qu'en général, bon, cette espèce de, comme dirait l'autre, ce chiffre, enfin, cette espèce de chiffrage qu'il y a dans une courte scène vaut pour beaucoup plus que la simple narration ou la simple construction du film. Elle vaut, presque c'est le film qui vaut pour arriver à mettre cette scène en état d'allégorie absolue, quoi. Et je la trouve, enfin moi personnellement, vraiment très, pas seulement violente. Oui, c'est la scène finale du primitif. D'accord, oui, c'est une très belle formule, ça.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre choix de finalement de la lettre? Parce que non, c'est extrêmement complexe finalement, toutes les voies narratives d'une certaine façon, tout ce qui se passe à ce niveau-là. Comme l'éclatement de la narrativité, hein, parce qu'il y a narrativité, mais en même temps, c'est quand même ce qui se passait, je crois, autant que
possible. Oui.
À cette époque-là, oui. dans le domaine littéraire, on avait un travail de
narration diffractée.
Oui, complètement. Oui. Enfin, bon. Donc, pour la correspondance.
Bon, c'est la distance de soi à soi. Hein. Mon frère, c'est moi là-bas. C'est la distance entre moi et moi. Hein. Je crois que c'est ça.
D'accord. Non, je préférais vous l'entendre confirmer parce qu'on le sent comme ça, mais je voulais savoir que votre parole dessus, si vous voulez.
C'est ce qui me vient à l'esprit. Quoi.
On évoquait le bestiaire. Est-ce qu'on peut revenir également sur les éléments qui sont toujours très prégnants? Le bestiaire, la tête de cheval, le cheval, le chien, le caméléon. J'en passe, sans aucun doute, j'en oublie. Mais on a aussi le feu, on a aussi l'eau, on a aussi la terre qu'on malaxe, et le vent que l'on entend, la respiration, le souffle, en tout cas. Et j'ajoute à cela les passages à la couleur et le premier signe, justement, dans l'art de malaxer quelque chose. C'est-à-dire qu'on est en train de fabriquer, on a les mains dans la glaise, et c'est la couleur qui en jaillit. Donc y a...
La couleur jaillit du mot amour, hein, l'amour, c'est là que la couleur apparaît. Le plan est à revoir, hein, parce que, bon, il y a... Oui, on ne va pas le retourner, il a été tourné correctement, mais il faut le revoir au niveau de la restauration, ce plan-là. C'est facile à faire, on va le faire. Mais enfin, c'est au moment de l'apparition des mains en couleur que le mot amour est prononcé. Vous parliez de désir tout à l'heure. Bon, la couleur, c'est le désir. Hein, la couleur, c'est le désir. C'est le futur. Le désir, c'est le futur. Bon. Vous parliez des quatre éléments. Bon, parmi les livres qu'on lisait à l'époque, il y avait Bachelard aussi, évidemment. Hein, bon, et quand je dis Bachelard, moi, j'étais terriblement sensible à Bachelard parce que je venais de Tunisie. Et qu'en Tunisie, ben, je pense qu'à Marseille, c'est la même chose. Hein. Mais ici, à Paris, non. Mais ici, à Marseille, c'est la même chose. On vivait les quatre éléments. On les vivait terriblement, les quatre éléments, bien sûr. Bon, la mer, la terre, etc. Le malaxage du plâtre, c'est la recherche. C'est je malaxe mes circonvolutions cérébrales. Hein, j'essaye de comprendre ce que j'ai dans la tête. C'est ça que je malaxe. C'est en même temps une espèce de ressassement d'un travail qu'il ne fait plus, mais qui est le sien. Il est plâtrier, ce gars. Bon. Les animaux, le bestiaire.
Le bestiaire est cette étonnante, en tout cas, séquence de la procession, puisque vous évoquiez tout à l'heure le mélange des religions.
Oui.
Comment elle est arrivée
Oui, il m'a semblé qu'il fallait que le christianisme soit présent quelque part, et qu'à ce moment-là, ça pouvait coller. Je ne sais pas très bien. Peut-être que vous le sauriez mieux que moi. Mais j'ai eu l'impression qu'il le fallait.
À propos de ce qu'on disait sur le son, donc vous avez tourné sans son synchrone, donc impossible de faire. Finalement, vous retrouvez, et j'en reviens à ces gestes de cinéma, vous retrouvez là le travail qu'avait pu faire le tout début de la Nouvelle Vague. Ou oui, même avant. C'est dans votre culture cinématographique à l'époque, ça vous permet de faire un lien avec ce que vous aimiez au cinéma. Ou alors vous dites, bah c'est dommage parce que si j'avais eu du son synchrone.
Ça me convient. Non, mais de toute façon, les contraintes, c'est toujours très, très riche, très fructueux. J'étais pour ce genre de contraintes.
Oui. Oui, par exemple, une chose qui est. Bon, qui maintenant ne fait plus tout à fait de doute quant à son efficacité, qui dans les années 70 jetait un trouble. C'est la question de la désynchronisation, mais surtout de l'utilisation des sons dans une espèce de réalisme violemment approximatif. Par exemple, un bateau avec un bruit de grève. Donc il y a de l'eau, mais l'eau, c'est l'eau sur une plage, évidemment. Par exemple, une corne de brume comme ça, mais une seule fois. Donc. Chose qui m'ont frappé parce que je me suis dit, ça quand même, c'est pas un truc tout à fait habituel. Effectivement, il y avait eu ces essais chez Viennet au tout début, Maurice Lemaître, Izou, enfin, plein de gens comme ça, qui cherchaient dans la désynchronisation, on avait un effet de plus grande attention, puisqu'on n'était pas endormi par l'illusion du pseudo-réel, etc. Mais là, effectivement, ça prend un effet, oui, de vigilance par rapport à la lettre. On écoute, je pense, beaucoup plus la lettre qui reprend, qui recommence, qui s'interrompt, etc., du fait que l'enchaînement visuel et l'enchaînement des sons, ou en tout cas de l'environnement sonore, est lui-même complètement diffracté, complètement hésitant, complètement chaotique, quoi, d'une certaine façon. Et moi, enfin, toujours dans la première vision, ce soir, c'était la troisième, ça a fait un drôle d'effet. Ce soir, je l'ai vécu beaucoup plus comme quelque chose d'hypnotique dans lequel j'étais installé, parce qu'à la troisième fois, on est installé. Et à la première, dans un état de vigilance mentale qui me laissait un peu, une sorte de stupeur, parce que il y avait outre tout ce qu'on vient de dire là, il y avait outre cela, je dirais dans la lumière quelque chose d'excessivement violent, c'est-à-dire la violence même de la lumière, du grain de lumière. Alors il y a le côté vestige de la pellicule qui, bon, ceci cela, parce que du coup on le lit effectivement comme étant, on a du mal à rectifier. C'est-à-dire se dire, attention, c'était pas ça tout à fait. C'est pas un film incendié qu'on voit. Mais en même temps, il y a de la lumière, évidemment. Chaque fois qu'on est dans une rue ici, le rapport ombre-lumière est terrible. Et donc, oui, ça donnait cet effet, ce côté ombre-lumière, chaos dans la lettre, donnait une impression différente de lisibilité de ce que c'est que d'être désœuvré à Marseille, par exemple. Où ça m'est arrivé, où ça m'est arrivé à tout le monde, sans doute. Et moi, quand j'ai découvert Marseille, c'était dans les années 70, j'ai passé deux jours, je ne connaissais personne, et ça m'a bouleversé le film, parce que je n'étais pas du tout immigré de loin. J'étais d'ailleurs, mais pas... Mais il y avait cette vision. Et on pouvait attirer un clochard. On peut attirer un clochard quand on est désœuvré. Sinon, on n'attire que dalle, on n'attire pas un clochard. Il y a ces choses qui sont d'une vérité étrange, justement pas perceptible, parce qu'on l'oublie au quotidien. Le clochard, le chien, bien sûr. Le chien approche celui qui est seul. Le clochard approche celui qui est seul. Le fou lui donne des... Enfin, il y a tout ça. Qui va lui demander la rue de la Guirlande ou pas la rue de la Guirlande. Enfin, les cauchemars se mélangent au réel et tout ça.
L'histoire de la rue de la Guirlande, ça m'a été tout bêtement indiqué par cette guirlande qui était peinte sur le montant du lit. Hein, ce montant du lit m'a donné envie de faire. Alors, du coup, j'ai cherché, il y avait une rue de la Guirlande à Marseille, j'ai trouvé une. Et puis voilà, bon, c'est venu de ça.
Le texte en tunisien, il est mystérieux pour beaucoup. Oui, donc, est-ce que c'est un doublé ?
Je ne connais pas l'arabe, mais je l'ai rédigé en français et il m'a été traduit en arabe.
Et qu'est-ce qu'il dit par rapport
à... Oui, mais justement, ça manque. Hein. Il faudrait qu'on le mette en sous-titre. Il faudrait que les sous-titres soient là. Parce que c'est gênant.
C'est beau aussi de ne pas comprendre.
Oui, oui.
Mais enfin, peut-être qu'il y a
encore
des choses.
Plus beau de comprendre ces
peut-être
choses-là.
Qu'il y a des choses essentielles ou des nuances.
Enfin, du point de vue thématique, ça va dans le même sens.
Oui. Bien sûr. Comme tu l'as dit et qu'on a travaillé dessus, bon, du coup, ça me fait réfléchir cette histoire. Bon, aussi parce que j'ai beaucoup.
De son. Du son.
De traduction.
Ah, de traduction.
J'ai beaucoup travaillé, moi, sur cette histoire de traduction, pas traduction. Justement, parce que je suis entre deux.
Du vietnamien, etc.
Voilà. Mmh. Et puis même de comorien, du coup. Hein. Mmh. Parce que, par contre, ce que je ressens maintenant, que maintenant je réalise, c'est quelque chose qui est très fort dans ce que tu dis, que l'autre, c'est toi.
Oui.
C'est-à-dire que d'un coup, cette voix qui ne parle pas ta langue reste la tienne.
Absolument.
Et, et voilà. Et moi, ça, cet abîme-là, à mon avis, si on traduit, on le perd.
C'est terrible.
Tu vois ? Si on traduit, on le perd.
Ben oui.
Le fait que là, par la force des choses, ça ne soit pas traduit, ce texte en tunisien, ça donne une dimension, comme on sent bien que c'est sa propre voix, c'est comme les enfants qui parlent leur propre langage, qui inventent une langue et qui, pour dire
c'est
quelque
pas une
chose d'intime...
C'est une langue à part entière,
qui dit des choses très précises. Mais on le ressent, on le ressent, ça se tient quand même, c'est son discours intérieur, c'est... Bon, sans doute qu'il y a des choses... belle à comprendre, mais c'est beau à entendre comme ça.
Oui, ça bon, parce que c'est un débat, effectivement, enfin, c'est pas un débat seulement, c'est une question centrale, quoi. C'est la question, d'abord la question que se posait Jean Rouch, par exemple, à savoir est-ce qu'on doit traduire les gestes, les rites, etc., pour pas qu'il y ait d'ambiguïté dans la réception, ou pas ? Ou est-ce qu'on les donne comme ça, avec, bon, la bande son, puis après, on vadrouille là-dedans, on bouge, puis si on s'intéresse à ce qui se passe, on tend l'oreille, d'une certaine façon. On trouvera toujours en tendant l'oreille, en tendant la vue, d'une manière ou d'une autre. Mais par exemple, ça peut se pousser aussi jusqu'aux expressions. Il est évident que culturellement, les expressions même du visage, je ne sais pas, en Inde, pour dire oui, on dit non avec la tête. Alors est-ce qu'il faut sous-titrer lorsque cette personne... Non, en fait, elle dit oui. Donc voilà. Donc ça va jusqu'à cet endroit-là qui est... Moi, je crois, bon, mon parti pris, c'est de penser qu'il vaut mieux que le spectateur, je ne sais pas, utilise pratiquement 90% de ses neurones en tension visuelle et auditive, enfin, qu'il hallucine pratiquement pour comprendre, plutôt que de le mettre dans la situation d'un confort qui me paraît toujours un peu louche, quoi. Parce que quand on est dans la rue, on n'est pas dans le confort, quoi. Ça parle et on entend.
Je pense que par rapport à ton cinéma, c'est tellement évident, parce que quand je parle de poétique, c'est-à-dire que c'est la vie, hein, c'est-à-dire que c'est directement la vie, bah, je pense que la vie, c'est le mystère.
La vie, c'est le mystère.
Et que si, vrai. Tu vois, pour moi, dans le cinéma, on a la chance de pouvoir camper complètement le mystère. Alors moi, là-dessus, je me régale de mystère en cinéma, simplement. Et que le mystère, c'est le désir. Dans cette voix,
l'intonation traduit un peu les mots dont je ne comprends pas le sens. Leur intonation me donne quelque chose de leur sens.
Non, mais c'est pas que ça. C'est que si tu veux, c'est le désir de l'autre, ce que je te disais. Voilà,
oui.
C'est le désir de l'autre,
de soi-même,
qui est toi.
De se trouver soi-même voilà. aussi.
Et d'entendre que l'autre, avec ces mots que tu ne comprends pas, d'entendre en toi que tu le désires.
Oui.
Ben, pour moi, c'est quelque chose que le cinéma nous permet.
Ça n'a pas tout à fait rapport avec la traduction, mais un petit peu aussi. La façon dont tu as filmé la Tunisie et le désert, et les femmes là-bas qui versent de l'eau, les enfants. Et c'est drôle parce que je me sentais comme... on a déjà vu des visages, des portraits de vieilles femmes avec les maquillages. Et c'est une image qui m'est pas totalement inconnue, mais je l'avais jamais ressentie de cette manière-là. Et je crois que c'est parce que avec la fiction, tu nous emmènes dans une histoire intime et après, tu nous montres des choses qui n'ont rien à voir. C'est pas que ça n'a rien à voir, c'est que c'est... Qu'est-ce qui est sur les bords de cette histoire ? Enfin, sur les bords et sur le chemin de cette histoire. Et du coup, on se sent très familier.
Passage.
On se sent très familier avec des endroits qui sont tellement connus, comme le désert. Comme moi, je suis jamais allée en Afrique, donc c'est totalement l'altérité. Et voilà. Donc, je voulais te remercier de nous avoir fait traverser la mer.
Oui, c'est une remarque très très courte. Je crois, bon, c'est pas, je veux pas du tout mettre fin à ce débat, mais je crois qu'il y a quand même quelque chose qu'on oublie, c'est qu'il y a une intention. Donc, quand on écrit le texte et qu'il est traduit en arabe, c'est qu'on a l'intention soit qu'il soit traduit, soit qu'il soit pas traduit. Mais c'est une intention. Quand on a affaire à un documentaire, c'est-à-dire qu'on capte une voix, la traduire ou pas est encore un autre choix, encore une autre question qui se pose. Donc, si on classe les questions, pratiquement, si l'intention de départ c'est faire entendre du texte, il faut effectivement le traduire, bien entendu, et donc faire entendre la voix et avoir la traduction dessous. Ce qui n'est pas tout à fait pareil que dans le jeu du pseudo-documentaire où on ferait entendre la voix comme si elle était voix naturelle, où là on ne s'en sort pas du tout non plus, quoi. Mais de toute façon, c'est une intention de départ, pas post. Donc après, la question n'est pas de savoir s'il faut traduire ou pas. Je crois qu'il faut savoir ce que vous vouliez au départ et puis le faire, quoi. Voilà.
Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a deux autres... Donc, de Marc, on connaît trois films. un long métrage, Lettre à la prison, et deux films courts, Exil, et un autre qui s'appelle La parole perdue. Et La parole perdue, moi je reste étonné du rapport entre ce titre et le travail de et les films de Marc, et ce qui lui est arrivé, et le destin. Quoi. Voilà, c'est un film de 8 minutes qu'on trouvera le moyen de mettre en circulation.
Je voudrais qu'on remercie M. Marc Cialhomme d'être avec nous.
Lettre à la prison, une table ronde réalisée le 4 juillet 2008 dans l'auditorium du 61 La Canebière. Y participaient Marc Cialhomme, Jean-Paul Curnier, Claude Martineau et Frédéric Valabrègue. Il est 11h, tout de suite un documentaire sonore de Christophe Roux, Ritournelle. Bonne journée sur la grenouille.